Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment améliorer la maîtrise des risques dans votre pratique médicale? Telle est la grande question abordée dans Time Out, le podcast de l'association Smarter qui vous propose, le temps d'une pause avec des spécialistes, de réfléchir ensemble à l'amélioration de la sécurité de vos pratiques médicales. Tout de suite, un quatrième épisode consacré à la réaction allergique. Time Out est réalisé en partenariat avec Branchet Suisse, l'assurance des médecins. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes dans le quatrième épisode de Time Out, un épisode qui sera consacré cette fois-ci aux réactions allergiques graves au bloc opératoire. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Mertes. Bonjour professeur.
Bonjour. Bonjour à tous.
Également avec le docteur Nicolas Millier, qu'on ne présente plus, hein, qui fait partie maintenant des habitués du podcast Time Out.
Bonjour Alexia.
Et donc justement, j'en profite, docteur Millier, pour vous demander de présenter votre invité qui va mettre en lumière ce sujet, donc réaction allergique grave au bloc opératoire.
Alors, je vous remercie Alexia. En fait, c'est le professeur Mertes qu'on ne présente plus. C'est difficile de le présenter en quelques mots. Disons juste que Le professeur Mertes est anesthésiste réanimateur et chef du service de réanimation chirurgicale au CHU de Strasbourg. C'est un expert très, très réputé en anesthésie réa, en cardiologie, en allergologie. Et c'est à ce titre que nous avons pensé à l'inviter pour nous parler des réactions allergiques graves au bloc opératoire. Alors, je sais qu'il est très occupé, particulièrement en ce moment où c'est difficile en réanimation. Alors, je vais sans plus attendre vous passer la parole pour que vous puissiez lui poser les questions que nous avons préparées.
Merci beaucoup, Nicolas. Alors, une première question, professeur Mertes. Le terme allergie donc sous-entend la sensibilisation préalable à un allergène. Est-ce que c'est toujours le cas ou peut-on être intrinsèquement allergique à une substance particulière?
Merci pour cette question qui est une question en fait... compliqué, je vais essayer de répondre aussi simplement que possible. Alors, pour nous, on aime bien parler maintenant de réaction d'hypersensibilité immédiate plutôt que de réaction allergique, parce que dans les réactions allergiques, les gens sous-entendent effectivement des réactions avec des anticorps. Donc, on est exposé à une substance et on va développer des anticorps habituellement de classe IgE et on va être caractérisé comme allergique. Mais en fait, on sait aujourd'hui que dans les réactions d'hypersensibilité, il y a d'autres mécanismes qui peuvent résulter d'une action directe d'un médicament sur des mastocytes, par exemple, qui vont donc donner une réaction qui, cliniquement, est une réaction d'anaphylaxie avec un mécanisme qui peut ne pas être immunoallergique. Et puis, pour être complet, on a des réactions vraiment allergiques au sens classique du terme, qui surviennent chez des sujets qui n'ont jamais été exposés aux produits en cause. Donc ça veut dire qu'ils se sont sensibilisés à l'occasion d'une réaction croisée avec quelque chose d'autre qui reste souvent à identifier.
Très bien, merci pour cette première question. Deuxième question, l'allergie grave au bloc opératoire, c'est quoi?
Alors l'allergie grave au bloc opératoire, si on parle des allergies sévères, c'est-à-dire qui menacent le pronostic vital, ce qu'on appelle des réactions de grade 2, 3 ou 4, c'est à peu près une réaction tous les 5 à 10 000 anesthésies, que ce soit en Angleterre, en France, en Australie, les incidences sont assez voisines. Ce sont des réactions qui peuvent être graves, qui surviennent le plus souvent très rapidement après l'exposition au médicament qui va déclencher la réaction. Mais il y a quelques exceptions. On peut avoir des réactions très typiques avec des éruptions cutanées, des signes respiratoires, donc quelque chose de facile à reconnaître. Mais parfois, dans un tiers des cas à peu près, les signes cutanés vont manquer et le diagnostic n'est pas toujours facile. Ça peut être tout simplement un arrêt cardiaque inaugural. Évidemment, les anesthésistes ont l'habitude des manifestations cardiovasculaires liées à l'anesthésie, des hypotensions, des choses comme ça. Et là, c'est toute la difficulté du diagnostic clinique qui doit être précoce pour qu'on puisse instituer rapidement le traitement. Parce que chaque fois qu'on prend du retard, évidemment, l'évolution peut être plus compliquée.
Très bien. Quelle est la base du traitement lorsque le diagnostic est suspecté ? En particulier, quelles sont les doses d'adrénaline préconisées en fonction de la gravité du tableau clinique et du grade, du coup ?
Alors, les bases du traitement, elles sont assez simples et de bon sens. Hein. D'abord, à arrêter l'administration de l'allergène. Je crois que c'est vraiment très important. Si c'est un soluté de perfusion, un antibiotique, etc., il faut arrêter l'administration très, très vite. Si on est face à une réaction au latex, par exemple, il faut se mettre en environnement latex-free immédiatement. La deuxième chose, c'est évidemment très rapidement d'aller injecter de l'adrénaline. Et là, il faut injecter l'adrénaline en fonction de la sévérité des symptômes. Donc, classiquement, des injections de doses finalement peu importantes dans un grade 2 où on a des réactions systémiques, mais qui sont encore peu sévères, donc 10 microgrammes en intraveineux direct. Dans les grades 3, où on a un collapsus, des signes de bronchospasme, on va aller à des doses plus élevées, de l'ordre de 100 microgrammes. Bien sûr, quand on a un arrêt cardiaque, ce sont des doses de l'ordre du milligramme, donc comme dans n'importe quelle réanimation. Il faut savoir répéter ces doses jusqu'à obtenir la réponse que l'on souhaite. Deuxième chose très importante, c'est le remplissage. Le remplissage doit être rapide. Et dans une réaction de grade 3, par exemple, on estime qu'il faut faire des administrations titrées, comme pour l'adrénaline, avec une administration de 500 ml de cristalloïdes en 4 à 5 minutes. Et on répète ces séquences jusqu'à obtention d'une réponse hémodynamique, et on peut aller jusqu'à 30 millilitres kilo, par exemple. Donc des doses très importantes.
Merci, professeur Mertes. Quatrième question. Les corticostéroïdes et les antihistaminiques sont-ils utiles en situation aiguë ?
Alors, ce sont clairement des drogues de deuxième ligne, je dirais. Les antihistaminiques sont utiles lorsque les sujets sont conscients parce qu'ils peuvent avoir un prurite. Et donc, on va diminuer ce symptôme. Mais la plupart du temps, sous anesthésie, la question ne se pose pas, ce qui explique qu'on n'en fasse pas un médicament de première ligne à l'heure actuelle. Pour ce qui est des corticostéroïdes, ils sont utilisés par analogie aux accidents liés à des aliments. Donc, ils ont la réputation de pouvoir éviter les récurrences du choc anaphylactique. Mais ces récurrences, en fait, sont rares. Et donc, c'est un médicament de deuxième ligne. Son action est lente. Donc, on va faire, par exemple, 100 mg d'hydrocortisone une fois. Je pense que c'est largement suffisant. Mais une fois que la situation a été stabilisée.
OK. En cas de suspicion d'hypersensibilité aiguë, quels sont les prélèvements sanguins auxquels il faut penser pour pouvoir affirmer ou infirmer a posteriori le caractère allergique de la réaction ?
Alors, ce qu'on va faire, ça n'est pas affirmer le caractère allergique. Ce qu'on va chercher à faire, c'est montrer qu'il y a une activation des mastocytes, qui peut être liée à un anticorps ou à une action directe du médicament par un récepteur qu'on a identifié récemment, qui s'appelle MRGPRX2. Mais peu importe. Donc, il s'agit d'un dosage de tryptase. Et là, on recommande de faire un dosage de tryptase entre 30 minutes et 2 heures après la survenue des premiers signes. Si on est trop précoce, ce dosage risque d'être faussement négatif. Si on est trop tardif, il risque d'être là aussi faussement négatif. En complément de ce dosage au moment de la réaction, on vous recommande de faire un dosage à distance de la réaction, au-delà de 24 heures, 40, 30, 36 heures, 48 heures, peu importe. L'objectif, c'est de connaître le taux de base du patient. Et on va pouvoir ainsi mieux interpréter le taux de tryptase qui a été mesuré au moment de la réaction. De manière accessoire, vous pouvez aussi réaliser des dosages de certains anticorps spécifiques, par exemple du latex, des curares, de certains antibiotiques. Mais si vous n'y pensez pas, ça n'est pas grave, on pourra le faire à distance au moment de la consultation.
Vous qui êtes médecin anesthésiste, on l'a dit au début de ce podcast, quelle est la base de votre raisonnement pour minimiser le risque allergique lorsqu'il s'agit de choisir votre technique d'anesthésie. Et en particulier, sur quels critères vous allez vous baser lorsque vous devez sélectionner un curare?
Alors, bien évidemment, je voudrais que les choses soient très claires. La notion de risque allergique, c'est un élément parmi d'autres et on ne va pas écarter un produit au prétexte qu'il donnerait des accidents allergiques. Je pense par exemple que les antibiotiques sont des substances très utiles. On sait bien que ça donne des accidents allergiques. Ce qu'il faut, c'est savoir les reconnaître, savoir les traiter et puis surtout les explorer après pour savoir quels médicaments on pourra donner pour les anesthésies ultérieures. Maintenant, je pense que quand je choisis un antibiotique, je vais me fier aux antécédents des gens et évidemment, quand c'est de la prophylaxie, je vais suivre les recommandations de notre société savante qui me paraissent tout à fait excellentes. Lorsqu'il y a une suspicion d'allergie, je choisirai d'éviter l'antibiotique suspect. Mais je crois que c'est toujours préférable d'explorer les gens plutôt que de mettre des étiquettes qui sont souvent fausses. Et c'est particulièrement vrai pour les accidents aux antibiotiques. Pour ce qui est des curares, je crois qu'ils ont tous leur intérêt. Donc, à l'évidence, le rocuronium, par exemple, qui, avec la succinylcholine, ont un risque allergique un petit peu plus élevé, à mon sens, sont des produits très, très utiles pour les inductions à séquence rapide, pour la capacité d'antagoniser avec du sugammadex, par exemple. Donc, je crois que ce qu'il faut vraiment bien peser, c'est l'indication de curarisation. Et puis ensuite, regarder les caractéristiques du médicament. En réanimation, par exemple, nous utilisons très largement le sisatracurium qui donne moins de réactions allergiques que les autres. Et c'est un choix tout à fait raisonnable compte tenu de ses caractéristiques. Voilà ce que je peux vous dire sur mon choix de médicament.
Du coup, vous avez un peu répondu quand même à la future question qui est les préparations antihistaminiques, corticostéroïdes sont-elles utiles pour prévenir les réactions d'hypersensibilité aiguë? Vous avez déjà un peu répondu, non?
Alors, j'ai répondu. Alors, quand vous regardez les traités d'allergologie, on va vous dire que ça n'a pas d'intérêt pour les réactions allergiques, proprement dites. Et c'est vrai, une réaction qui est liée à des anticorps anti-IgE ne sera pas évité par des antihistaminiques ou par des corticoïdes. Donc, à chaque fois, il vaut mieux, et de loin, identifier le produit en cause et ne pas s'exposer à ce produit. En revanche, à l'autre bout du spectre, vous avez des gens qui ont des élévations de la tryptase héréditaire qui donnent des petites réactions qui sont des réactions de susceptibilité individuelle ou des réactions d'histaminolibération. Chez ces gens-là, dans ces cas particuliers, parfois un antihistaminique peut s'avérer utile. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne vous évitera pas une réaction grave allergique. Et donc, c'est un médicament de confort pour des réactions d'histaminolibération non spécifiques uniquement.
Quelle est votre attitude lorsqu'il faut prendre en charge en urgence un patient qui se dit allergique à, donc il y a plusieurs cas, un produit de l'anesthésie générale, un anesthésique local, une pénicilline, au latex, pour ça vous avez déjà évoqué un peu la chose, à la chlorhexidine, à la morphine, aux produits de contraste iodés, aux poissons crustacés et à l'iode. Voilà la liste.
Alors la liste est longue. Pour les produits d'anesthésie générale, évidemment, si on peut faire une anesthésie loco-régionale, ça va être le choix idéal, puisqu'on va juste éviter le problème. Sinon, évidemment, on va choisir des médicaments qui sont peu histaminolibérateurs et on utilisera les curares que s'ils sont absolument nécessaires. Mais très souvent, en fait, on est obligé d'y recourir. Et donc, cette recommandation-là, sur le plan pratique, elle nous apporte peu de choses. Mais en tous les cas, si le sujet est allergique à un curare, il faut absolument éviter de le réinjecter. Et s'il a été exploré, la plupart du temps, on vous aura proposé un curare qui est satisfaisant. Pour les anesthésiques locaux, nous avons une recommandation, par exemple en France, pour les femmes enceintes, puisqu'on sait que ces allergies sont très, très rares. Évidemment, je recommande de faire des tests allergologiques qui sont assez simples, avec les produits en cause. Et surtout avec le produit que vous allez vouloir utiliser pour montrer qu'il est bien toléré. Lorsque ce n'est pas possible, qu'on est par exemple en salle d'accouchement, nous avons recommandé de si la réaction n'était pas grave, bien sûr, de faire un petit test de provocation par 1 ml d'anesthésique locale en sous-cutané. Et si il n'y a pas de réaction au bout de 20 minutes, de mettre en place une péridurale. Mais bien sûr, on est dans un contexte très particulier où on pense que la balance bénéfice-risque est clairement en faveur de l'anesthésie loco-régionale. Pour une allergie à la pénicilline, il y a deux situations. Soit j'évite tout simplement le produit et je prends une alternative, soit je pense qu'il est très important de savoir si cette allergie est confirmée. Et en fait, l'étiquette est souvent posée à tort. Dans 75% des cas, ça n'est pas le cas. À ce moment-là, on peut explorer les sujets pour faire ce qu'on appelle du délabeling, c'est-à-dire vérifier si oui ou non ils sont effectivement allergiques. On ne peut pas faire ça pour tous les patients parce que ça consomme quand même beaucoup de moyens. Pour le latex, c'est éviction du latex. C'est une solution très, très efficace. Et je vous rappelle qu'il faut faire une éviction systématique du latex chez les patients porteurs de spina bifida. Pour la chlorhexidine, là encore, c'est une cause fréquente de choc anaphylactique. Il faut choisir un autre antiseptique, par exemple de la povidone iodée, qui sera tout aussi efficace et qui donne beaucoup moins de réactions allergiques. La morphine, ce sont souvent des réactions d'intolérance. Évidemment, vous allez éviter la morphine. Et je vous recommande d'éviter aussi la codéine, car les réactions croisent. En revanche, vous pouvez utiliser le fentanyl, le sulfentanyl et le rimifentanyl sans problème. Pour les produits de contraste iodé, là, c'est un petit peu comme pour les curares. Il faut explorer et identifier quels sont les produits qui font réagir le patient et lesquels sont bien tolérés. Et je crois qu'il faut s'efforcer de les explorer à distance et de leur remettre une carte allergique pour qu'on puisse les prendre en charge dans une situation d'urgence où on n'aura pas la possibilité de faire des tests. L'allergie aux poissons et aux crustacés, là, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes. On met assez peu de poissons ou de crustacés dans nos médicaments, donc on peut y aller. C'est un peu une légende de ne pas pouvoir faire, par exemple, du propofol à ces sujets-là ou je ne sais pas trop quoi. Pas de problème particulier dans ce cas-là. Pour ce qui est de l'allergie à l'iode, il n'y a pas d'allergie à l'iode. Hein, donc, comme je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'inquiète pas trop. Quand on a une allergie à la povidone iodée, c'est de la povidone et pas l'iode, et c'est très rare. Quand on a une allergie à un produit de contraste iodé, c'est à la molécule porteuse et pas du tout à l'iode. Et donc, par exemple, je peux utiliser de la povidone iodée chez quelqu'un qui est allergique à un produit de contraste iodé. Il n'y a aucun danger. Je peux utiliser de la povidone iodée ou des produits de contraste iodé chez quelqu'un qui sont allergiques aux crustacés ou aux fruits de mer. Il n'y a pas de problème.
Parfait. Merci beaucoup, professeur Mertes. Merci au docteur Millier d'avoir préparé ce podcast avec vous également. Et ce sera bientôt disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Merci beaucoup.